Info Matin, Nicolas Legrand.
Un ajustement mesuré, fondé sur des critères objectifs et transparents. Naïma Moutchou défend l'ouverture du corps électoral aux natifs et aux conjoints pour les élections provinciales. La ministre des Outre-mer qui était auditionnée la nuit dernière pour nous par la commission des lois du Sénat. En métropole, le chômage repasse la barre des 8%. La promesse du plein emploi s'éloigne. La hausse est particulièrement importante chez les 15-24 ans. L'actualité sanitaire toujours en métropole et le gouvernement s'apprête à tous les scénarios concernant l'antivirus. Le point sur le stock de masques disponible en France dans ce journal. Du football et deux matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1. Strasbourg s'est imposé 2-1 sur Brest ce matin. Dans l'autre rencontre, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Lens. C'est la reprise et le score est de 1-0 en faveur des Parisiens qui sont donc virtuellement champions de France. Deux nouvelles salles de sport de proximité à Dimbéa, les salles Bambou à Coutiot et Mozart à Jacaranda ont été inaugurées hier soir. Une étape majeure du programme pilote du sport dans mon quartier porté par le CTOS et le FSH. La météo en Nouvelle-Calédonie, les nuages sont nombreux sur l'extrême sud et les Loyautés avec de petites averses. Ailleurs, les éclaircies gardent largement l'avantage. Quant aux températures maximales, elles évoluent peu et atteignent 25 à 28 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir d'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique.
Oui, avec le début du parcours législatif de la loi organique visant à ouvrir le corps électoral aux natifs et aux conjoints pour les élections provinciales du 28 juin prochain. Vous le savez, lundi prochain, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie doit rendre un avis sur le texte avant qu'il ne soit soumis à la commission des lois du Sénat, puis qu'il ne soit examiné en séance publique. À 5 jours de ces étapes, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, était auditionnée hier soir par la commission des lois du Sénat. La ministre des Outre-mer a d'abord rappelé qu'il y a exactement 2 ans, les Calédoniens avaient connu des heures de violence et de douleurs inouïes. Naïma Moutchou a ensuite défendu l'esprit de ce projet de loi. Il s'agit de reconnaître une réalité humaine, une réalité sociale de femmes et d'hommes nés sur cette terre et qui y vivent et qui ne sont pas pour l'heure sur la liste électorale spéciale provinciale. Écoutez.
Il s'agit de reconnaître ce qui est une réalité humaine, une réalité sociale et territoriale. Celles de femmes et d'hommes nés sur cette terre, qui ont grandi, qui ont travaillé, qui vivent, qui demeurent toujours aujourd'hui, mais qui sont exclus du scrutin provincial, qui est pourtant un scrutin structurant pour la vie démocratique calédonienne. Je pense notamment à ces jeunes nés en Nouvelle-Calédonie, qui parfois d'ailleurs ont voté aux 3 scrutins référendaires, mais qui ne peuvent pas, en l'état aujourd'hui, participer aux élections provinciales. Le gouvernement considère que cette évolution répond donc à une exigence de cohérence démocratique et d'équité. Elle constitue un ajustement permettant d'atténuer l'ampleur des dérogations qui sont particulièrement significatives au principe d'universalité et d'égalité du suffrage, pour reprendre d'ailleurs les propos du Conseil d'État.
La ministre des Outre-mer est ensuite entrée dans les chiffres en citant d'abord les 37 492 citoyens français qui ne peuvent pas voter au provincial, dont 10 569 natifs et qui, eux, pourront voter si le projet de loi est adopté. Il s'agit d'un ajustement mesuré, fondé sur des critères objectifs et transparents, selon la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui a ensuite évoqué la situation des conjoints, qui va donc faire l'objet d'un amendement lors de la discussion lundi prochain.
La proposition de loi organique étant d'initiative parlementaire, elle ne comporte pas dans sa rédaction initiale de dispositions relatives aux conjoints de citoyens calédoniens. Or, le gouvernement considère qu'il existe également une situation d'incompréhension pour ces conjoints intégrés à la société calédonienne. Là encore, il s'agira d'un aménagement correspondant à ce que le Conseil d'État a pu qualifier de changement de circonstances de droit et de fait induit par l'évolution de la situation démographique. Conformément aux engagements pris par le Premier ministre, le gouvernement déposera donc un amendement afin de permettre leur intégration à leur demande des conjoints de citoyens calédoniens dans le corps électoral provincial. Là encore, une approche proportionnée, respectueuse des équilibres issus des accords.
La ministre des Outre-mer qui se projette aussi au-delà du débat sur le corps électoral. Pour elle, ce n'est qu'une étape car le statu quo n'est pas une perspective soutenable car il fournit les frustrations.
Il faut que nous parlions en parallèle également d'économie, de la jeunesse, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'industrie du nickel, du logement, du pouvoir d'achat, de la place des femmes, de la question des inégalités et bien sûr des perspectives offertes aux générations futures. C'est dans cet esprit que le gouvernement soutient aujourd'hui cette évolution du corps électoral comme une étape de dialogue, une étape de justice, une étape qui ne clôt aucun débat, une étape qui ne préjuge pas des discussions futures, mais une étape nécessaire pour permettre à la démocratie calédonienne de continuer à avancer. Parce que le statu quo n'est pas une perspective soutenable. Il nourrit les frustrations, nous le savons. Il vient fragiliser les équilibres issus des accords et il alimente un sentiment d'exclusion. Face à cette impasse, le gouvernement fait le choix d'avancer, de permettre à la Nouvelle-Calédonie de poursuivre dans la paix, par la démocratie, le chemin exigeant du destin commun. C'est précisément l'objet du texte et des débats qui vous sont soumis à partir d'aujourd'hui.
Et 3 sénateurs seulement sont intervenus hier devant la commission des lois du Sénat qui auditionnait donc la ministre des Outre-mer sur cette proposition de loi organique portant intégration des natifs dans le corps électoral des provinciales du 28 juin. Et c'est la situation des conjoints qui semble poser problème à une partie de la représentation nationale. Pour le sénateur centriste de l'Orne, Olivier Bitz, modifier les règles électorales à un mois d'une élection, c'est du jamais vu. Il regrette également l'absence de consensus local et il dit attendre avec intérêt l'avis du Congrès. Même réaction de la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Chercher à imposer quelque chose qui n'est pas consensuel à quelques semaines d'un vote, notamment concernant les conjoints, n'est pas la bonne méthode, selon elle. Et pour le sénateur socialiste du Nord, Patrick Kanner, l'amendement concernant le vote des conjoints est là un véritable chiffon rouge. Écoutez le président du groupe socialiste au Sénat.
Nous voulons que l'apaisement institutionnel sur le caillou aboutisse à la relance de négociations politiques. Ce sera le message que nous ferons passer à tous. Et pour être très clair, y compris au FLNKS, il est temps de revenir à la table de négociation, il est temps de repartir sur de bonnes bases. Il y a des pierres à l'édifice, certains pensent à Bougival, d'autres à d'autres lieux. Peu importe, l'objectif c'est de repartir dans la négociation et bâtir un avenir institutionnel stable pour le caillou. Mais il y a un chiffon rouge, c'est les conjoints. Donc s'il y avait un amendement du gouvernement pour ouvrir le corps électoral aux conjoints, nous nous opposerions. Et j'ai bien le sentiment que ce n'est pas qu'une position des groupes de gauche. Et par rapport aux négociateurs actuels et à venir, n'agitons pas inutilement des éléments de conflictualisation qui ne feraient pas avancer le dossier qui est pour nous essentiel, à savoir la tenue dans de bonnes conditions des élections du 28 juin prochain.
Un des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. C'était donc hier le deuxième anniversaire d'un événement douloureux, le déclenchement des émeutes insurrectionnelles dont les conséquences économiques, sociales et humaines se font sentir encore chaque jour. De nombreux Calédoniens sont toujours très marqués par les violences qui ont duré plusieurs semaines. Et 2 ans après les émeutes du 13 mai, l'appel à la mobilisation de la CCAT n'a eu que très peu d'écho. 180 personnes se sont rassemblées hier matin à la vallée du Tir pour rendre hommage à ceux qu'ils qualifient de martyrs. Dans les prises de parole, Christian Théin et les représentants du FLNKS ont tenu à affirmer que le combat n'est pas terminé. Un rassemblement qui se situait aussi dans la perspective des élections provinciales avec un appel à la mobilisation et à l'unité des indépendantistes pour aller chercher la majorité dans la province sud. D'autres points de mobilisation de la CCAT ont eu lieu sur le territoire, notamment à Lifou, Point-d'Imier ou Puebo, mais ils n'ont à chaque fois réuni que quelques personnes. Toujours dans l'actualité politique, le Rassemblement réunissait hier son comité directeur. Dans un communiqué publié hier soir, le parti présidé par Alcide Ponga indique que les échanges ont fait ressortir une volonté majoritaire de construire une union la plus large possible du camp non indépendantiste. Une union indispensable pour s'opposer à toute forme d'indépendance et pour répondre aux défis politiques, institutionnels et économiques de notre territoire, écrit le Rassemblement dans un communiqué. Le parti qui affirme que cette union devra toutefois reposer sur des bases claires, équilibrées et respectueuses des forces en présence, ainsi que des valeurs portées par chacun. Le Rassemblement estime que cette démarche d'union doit garantir une représentation juste et fidèle de ses électeurs à hauteur d'un tiers. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 2 ans après le 13 mai, 58% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent confiants dans la capacité de la Nouvelle-Calédonie à se redresser. Ils sont 42% à ne pas partager cette confiance. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi après le pont de l'Ascension pour une nouvelle question du jour. Et oui, aujourd'hui c'est le jeudi de l'Ascension, nous sommes donc un jour férié, l'occasion d'un long week-end pour beaucoup d'entre vous et sur Radio Rythme Bleu, vos programmes s'adaptent. Vous retrouverez Infomag, le journal de la mi-journée, à midi au lieu de 11h30. Pas d'émission Vous avez un avis ce matin, ni d'invité du matin, ni même de jeudi de l'économie, Radio Rythme Bleu. Info Soir reste en revanche programmé à 17h45. Cette fête de l'Ascension est célébrée aujourd'hui dans les paroisses de Nouvelle-Calédonie. C'est un temps fort, évidemment, pour les chrétiens qui commémorent la fin de la vie terrestre de Jésus et sa montée au ciel, 40 jours après Pâques. Les précisions du père Jean-Paul Pouillet, il est responsable de la paroisse de la foi.
L'ascension du Seigneur, c'est cette montée au ciel après sa résurrection, le moment où il disparaît aux yeux de ses apôtres, 40 jours après Pâques, et on rentre dans une période d'attente de l'Esprit-Saint, d'invocation de l'Esprit-Saint, pour que Dieu continue d'une manière nouvelle, plus intérieure, plus profonde, plus intime, eh bien, de nous faire vivre de sa propre vie divine, lui, le Dieu vivant. L'ascension du Seigneur n'est pas à confondre avec l'assomption de Marie, qui elle est célébrée le 15 août. Le Christ, en ressuscitant, nous a ouvert les portes du royaume des cieux. Et donc, beaucoup ont pu, depuis sa résurrection, bénéficier de cet accès au royaume. Et Marie en fait partie. Et donc, la Mère de Dieu a été accueillie dans la gloire du ciel. C'est ce que nous fêterons le 15 août. Mais en ce jeudi, c'est bien la fête de l'ascension du Seigneur que les chrétiens du monde entier célèbrent.
L'ascension marque donc la fin du temps pascal et elle annonce la fête de la Pentecôte qui sera célébrée le dimanche 24 mai, c'est-à-dire 50 jours après la fête de Pâques. Il est 7h passées de 13 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous. On va marquer une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour voir la suite de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule BMW mis en circulation entre 2000 et 2019, votre véhicule, selon son année et son modèle, est peut-être concerné. Réalisé exclusivement dans les ateliers de Prestige Motors, de rue Edmond Arbulot à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel ? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 44 30 00 ou par email à reception.prestige@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
Vos droits méritent une vraie protection. La protection juridique, c'est l'assurance qui vous aide à défendre vos droits au quotidien. Litige avec un voisin, accident de la route, arnaque en ligne, problème au travail ou avec un achat, les situations peuvent vite devenir complexes et coûteuses. Avec la protection juridique Groupama Pacifique, vous êtes conseillé, accompagné et soutenu financièrement. Gagnez du temps, évitez le stress et protégez votre budget avec la protection juridique Groupama Pacifique. Plus d'infos sur www.groupama-gan.nc.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal. Les élus du Mont d'Or étaient réunis hier soir pour un conseil municipal. À l'ordre du jour, 17 délibérations portant sur différents sujets relatifs au fonctionnement de la collectivité, mais aussi aux politiques publiques communales. Parmi les points majeurs débattus, plusieurs délibérations qui traduisaient particulièrement les orientations portées par la nouvelle mandature conduite par Nina Julier, maire du Mont d'Or, notamment en matière de renforcement de la sécurité publique, avec l'acquisition de 10 tasers destinés aux policiers municipaux. Écoutez Nina Julier.
L'ensemble des policiers qui poursuivront la formation pourront en être dotés. Je crois que c'est de nature à les sécuriser eux d'abord. Et puis, c'est un nouvel outil dissuasif en matière de sécurité. Vous le savez, là, sur la commune, on a une recrudescence ces derniers mois de cambriolage. Nos policiers municipaux font un travail formidable. Encore ce soir, ils ont eux-mêmes interpellé des caillasseurs pas loin de la mairie. D'ailleurs, ça s'est produit pendant que nous étions en conseil municipal. J'avais les infos en direct. Donc, ils font vraiment un travail formidable et ils ont besoin d'être sécurisés. Malheureusement, on aimerait faire autrement parce que c'est vrai que nos policiers sont censés être des policiers de proximité, mais étant donné la délinquance, étant donné la violence aussi des actes de délinquance, on est obligé de passer à cet armement.
Et les élus se sont également penchés sur l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du conseil municipal pour une modernisation du fonctionnement institutionnel.
Le règlement intérieur est une obligation réglementaire. Nous venons de l'adopter, mais nous l'avons beaucoup fait évoluer par rapport à la dernière mandature, puisque nous avons intégré des dispositions pour davantage de transparence, avec la présence des élus qui sera suivie. Et il y aura une publication en fin d'année sur leur taux de présence en conseil municipal et dans les différentes commissions. Et puis nous avons renforcé aussi la capacité des élus à intervenir et à débattre, puisque maintenant ils pourront assister à l'ensemble des commissions et poser toutes les questions qu'ils souhaitent.
Ce conseil municipal aura également été l'occasion de désigner un correspondant défense pour la commune du Mont-d'Or dans le cadre du dispositif national visant à renforcer les liens entre les collectivités territoriales et les acteurs de la défense et de la sécurité. C'est la troisième adjointe au maire du Mont-d'Or, Yvi Poya, qui a été désignée pour tenir ce rôle. Dans le reste de l'actualité sur le territoire, Mickaël Forest tente d'éteindre la polémique autour du déplacement d'une délégation du FLNKS au Vanuatu pour participer à l'invitation du gouvernement local à un forum économique. Certains chefs d'entreprise calédoniens ont d'ailleurs quitté le forum lorsqu'ils ont su que l'invitation n'avait pas été adressée comme il se doit au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le sujet a été évoqué hier lors de la séance du gouvernement, mais Mickaël Forest dit ne pas comprendre la polémique engendrée par ce déplacement auquel il a pris part.
Comme je l'ai rappelé, j'avais l'impression qu'en 72 heures à Port-Vila, mon pays, il allait couler sous l'eau. Alors que les choses, elles se sont faites comme elles devaient se faire. Alors, peut-être qu'il y a eu des loupés par-ci, par-là. En tous les cas, nous, on a bien été invités officiellement. Mon ordre de mission, il a été validé par qui de droit. Les entreprises qui sont déplacées, elles ont pris en charge elles-mêmes leurs déplacements. Et à partir de là, encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des difficultés géopolitiques. C'est aussi pour ça que j'ai exprimé mes interrogations à M. le commissaire devant toute cette communication tout azimut qui est venue bousculer, on va dire, l'objet même de la mission, qui était de pouvoir, dans un temps où notre secteur privé cherche de l'air frais, se dire aussi qu'en Mélanésie, il y a aussi de l'air frais qu'on peut respirer.
Et si Mickaël Forest a reçu une invitation pour participer à ce forum, aucune invitation officielle n'a été adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est contraire aux usages entre la Nouvelle-Calédonie et son voisin. D'autre part, selon nos informations, aucun ordre de mission n'a été signé par le gouvernement. En bref, le transport maritime au menu du gouvernement hier. Ses membres ont approuvé un accord de garantie pour deux contrats de prêt contractés par la Sudil, l'un auprès de la BNC et l'autre auprès d'un pool bancaire. Après 17 ans de service, le Betticho arrive en fin de parcours et la Sudil prévoit son remplacement. Elle envisage l'achat d'un navire pouvant emmener 400 passagers au lieu de 350 aujourd'hui et surtout plus économe de 15% en carburant. C'est donc une première étape de franchie. Le gouvernement indique que la situation financière de la Nouvelle-Calédonie et son niveau d'endettement consolidés ont été pris en compte dans la décision d'octroi de cette garantie pour un projet estimé à 3,4 milliards de francs. L'actualité économique toujours et une augmentation des prix à la consommation au mois d'avril, une hausse de 1,1% selon l'ISEE, augmentation tirée par la hausse record des prix de l'énergie, plus 7,6%, mais aussi des produits manufacturés, plus 1,1% et des services, plus 0,3%. À l'inverse, les prix de l'alimentation se stabilisent. Sur un an, les prix baissent toutefois de 0,2%. Il est 7h, passé de 20 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Merci d'être avec nous dans un instant, juste après la publicité. L'actualité en métropole et dans le monde. Et on va parler de cette crise sanitaire de l'antivirus.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Pour la fête des mères, faites fondre son cœur avec Maison Thirier. Découvrez notre rose glacée à 3490 francs au lieu de 3990 francs. Sorbet fraise framboise, crème glacée vanille bourbon et meringue croquante, un moment magique, édition limitée. Offre valable jusqu'au 31 mai dans la limite des stocks dans vos magasins Thirier et stations mobiles partenaires. Maison Thirier, seul le bon crée du bonheur.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Envie d'une couleur intense qui dure vraiment? Avec Palette, profitez d'une couleur permanente, enrichie d'une crème soin pour des cheveux doux et brillants. Résultat, une couleur éclatante et une tenue jusqu'à 8 semaines. Blond, brun, acajou, révélez la nuance qui vous ressemble. Palette, vivez la vie en couleur.
Casting Canal+. Tu es passionné de foot, tu as des talents d'orateur? Alors c'est peut-être ton moment. Deviens commentateur de la Super League pour commenter 4 matchs en direct sur Pacific+. Tente ta chance dès maintenant sur le Facebook de Canal+. Tu as jusqu'au 17 mai pour postuler. Alors, prêt à prendre le micro? Plus d'infos sur la page Facebook de Canal+.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
avec l'alerte sanitaire autour de l'antivirus. Certains résultats des tests effectués sur les cas contacts français viennent d'être communiqués. On apprend que 4 enfants, considérés justement comme cas contacts, ont été testés négatifs. En tout, les 26 personnes concernées par l'antivirus ne présentent aucun symptôme. Elles ont toutes été placées en isolement à l'hôpital après avoir séjourné sur le navire de croisière MV Ondus ou avoir embarqué à bord du même avion qu'une néerlandaise décédée de l'antivirus. Et malgré cette nouvelle plutôt rassurante, le gouvernement reste mobilisé et se prépare d'ailleurs à tous les scénarios, y compris une nouvelle pandémie. Alors si c'était le cas, la pénurie de masques observée au début de la Covid ne devrait pas avoir lieu. Caroline Baudry pour Europe 1.
Eh bien, 2,1 milliards de masques sont stockés par l'État. C'est 20 fois plus qu'au début de la crise du Covid. Problème, la quasi-totalité de ces produits seront périmés cette année, selon un rapport de la Cour des comptes qui précise que des commandes ont été passées il y a 2 ans. Le stock est donc en train d'être renouvelé. 1,4 milliard de masques auraient fraîchement intégré ces réserves qui devraient retrouver ces 2 milliards de masques d'ici 2029, toujours selon le rapport. De quoi couvrir les besoins du système de santé, des malades, cas contacts et vulnérables durant 10 semaines de crise sanitaire, peut-on lire dans une note à la presse. Matignon assure ce matin que le stock d'État suffit à protéger le pays durant au moins 3 mois en cas d'épidémie type Covid-19, sans donner plus de précisions sur la quantité de masques en réserve aujourd'hui. Il faut y ajouter tous les stocks privés et publics, précise aussi Matignon, ainsi que la capacité de production de masques sur le sol français. Elle est estimée à environ 3 milliards de produits par an.
Et l'une des craintes des scientifiques, c'est que la souche de l'antivirus détectée à bord du MV Ondus est mutée pour devenir beaucoup plus transmissible, par exemple. Une hypothèse écartée à ce stade par l'Agence sanitaire de l'Union européenne, après des investigations préliminaires basées sur le séquençage du génome complet. Une information rassurante, étant donné les connaissances scientifiques de cette souche andaise. Cela fait plus de 30 ans maintenant que cet antivirus circule, principalement en Amérique du Sud. Et c'est justement en Argentine que le patient zéro semble avoir contracté la maladie avant d'embarquer sur le navire de croisière. Ce patient zéro est parfaitement identifié. Il s'agit d'un ornithologue néerlandais, une passion pour les oiseaux qui a poussé le septuagénaire à prendre des risques. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Oui, selon le New York Post, le 27 mars, Léo Schilperhorst, 70 ans, se rend avec son épouse dans une décharge près de la ville d'Ushuaia, dans le sud de l'Argentine. Objectif du couple, apercevoir un oiseau très rare, le caracara à gorge blanche, qui vit uniquement dans cette région du globe. Mais problème, la décharge en question est réputée pour être infestée de rongeurs. Selon les autorités argentines, Léo Schilperhorst aurait ainsi inhalé des particules provenant d'excréments de rats pygmées des rizières à longue queue, une espèce présente sur le site et porteuse de la souche andine du hantavirus. 4 jours plus tard, le 1er avril, à bord du navire MV Ondus, il laisse apparaître de premiers symptômes, fièvre, mal de tête et diarrhée. Le septuagénaire hollandais décède finalement 5 jours après à bord du bateau. Son épouse, Myriam, connaîtra le même sort quelques jours plus tard, atteinte comme son mari de l'antivirus.
Et cette alerte sanitaire mondiale pousse les autorités à prendre toutes les précautions nécessaires face au moindre danger. Illustration avec ces 1700 personnes confinées en ce moment même à bord d'un paquebot de croisière qui fait escale à Bordeaux. Cela fait suite à l'apparition de symptômes de gastro-entérite chez 80 passagers. Aucun lien avec l'antivirus, confirme l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Une nanogénaire est décédée d'un arrêt cardiaque sur le navire, mais rien à voir donc avec cette maladie. Dans le reste de l'actualité, un chiffre inquiétant pour l'économie française, le taux de chômage qui repasse au-dessus de la barre des 8%, 8,1 précisément au premier trimestre 2026 selon l'INSEE, une hausse de 0,7 points en l'espace d'un an et un niveau jamais atteint depuis 2021. L'augmentation est particulièrement importante chez les 15-24 ans et à l'heure du bilan des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, une chose est désormais actée, la promesse du plein emploi en 2027 ne sera pas tenue. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Contrairement à François Hollande, Emmanuel Macron avait lui réussi à inverser la courbe du chômage jusqu'en 2024.
On n'avait jamais, à un tel rythme, baissé notre chômage. On est passé de 9,6% à 7,4%. Pour la première fois depuis 40 ans, si nous continuons cet effort, on peut aller vers le plein emploi.
Un objectif de plein emploi devenu aujourd'hui inatteignable, la faute à une croissance trop faible et aux crises internationales, selon le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Mais l'argument est perçu par les oppositions comme un prétexte. Le maire de Cannes, David Lisnard, y voit plutôt la conséquence d'un excès de charges et de fiscalité sur les entreprises, quand la députée RN Julie Lechanteux estime qu'Emmanuel Macron s'apprête à laisser une France paupérisée et précarisée. Même le Bloc central ne cache pas son malaise. Un député Renaissance regrette ainsi l'effet dévastateur de la dissolution, qui aura conduit, selon lui, à 3 ans d'immobilisme. Politiquement, ce qui était l'un des totems d'Emmanuel Macron, à savoir la baisse du taux de chômage, pourrait désormais prendre la forme d'une demi-réussite, voire d'un échec du chef de l'État. Et ce, même si le nombre de personnes inscrites à France Travail reste bien inférieur à son niveau de 2017.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Nous démontrerons lors de nos plaidoiries la parfaite innocence de Nicolas Sarkozy, déclaration de l'un des avocats de l'ancien chef de l'État après les réquisitions au procès en appel de l'affaire libyenne. 7 ans de prison demandée à l'encontre de l'ex-président, la même chose qu'en première instance, c'est-à-dire 2 ans de plus que la peine prononcée lors du premier procès. L'arrêt sera rendu en novembre prochain. Il est 7h27, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal un petit peu plus long qu'à la accoutumé en ce jour férié avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Elles sont là, les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu, à seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
C'est bon, sac poubelle changé.
Déjà ?
Eh ouais, c'est normal, c'est les sacs poubelles Pratisac.
Ah ?
Les liens coulissants Pratisac, tu tires et hop.
Ah ouais, fini les nœuds.
Pratisac, les sacs avec liens coulissants, solides, pratiques, de 30 à 120 litres. Pratisac, tu tires et c'est dans le sac.
Stop aux hôtels classiques et aux petites chambres. À l'hôtel du centre, profitez de studios 3 étoiles de 30 mètres carrés avec vraie cuisine, lave-linge, sèche-linge, parking et wifi gratuit. Hôtel du centre, tout le confort au meilleur rapport qualité-prix. Réservé au 230-700 ou sur www.hôtelducentre.nc.
Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs, intérieur ou extérieur, depuis plus de 50 ans. Carrelage, sol souple, pierre naturelle, margelle, dalle. Sauvant Carrelage, 16 rue Fernand Forest, à Ducos. Plus d'infos sur sauvantcarrelage.com ou sur Facebook Sauvant NC.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Excellent début de journée, la suite de votre journal avec l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on démarre avec du football en métropole avec 2 matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 ce matin. Brest-Strasbourg et un choc entre Lens et le Paris Saint-Germain, Léo Fichou.
Oui, tout d'abord le match entre Brest et Strasbourg qui est déjà terminé. Ce sont les Strasbourgeois qui se sont imposés 2-1. Et puis ça joue actuellement dans ce choc entre Lens et le Paris Saint-Germain. En cas de victoire, les Parisiens seront sacrés champions de France. Et il y a pour le moment 1-0 pour le PSG, 68 minutes de jeu, les Parisiens qui mènent donc et qui pourraient être sacrés dès ce soir.
Et en parlant de football, c'est dans moins de 24 heures maintenant que Didier Deschamps dévoilera la liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le sélectionneur sera l'invité du JT de TF1 ce jeudi soir à 20h, soit 5h demain matin pour nous. Du cyclisme avec encore du changement en tête du classement général du Giro, l'Espagnol Igor Arrieta a remporté la 5e étape devant Eulalio Afonso, le Portugais qui s'empare du maillot rose de leader. Il possède près de 3 minutes d'avance sur le vainqueur du jour. Le premier français, Mathis Rondel, est 12e ex aequo à 6 minutes 22 du leader. L'actualité sportive côté calédonien, Johan Sidaner et la FCF, eh bien c'est terminé. Ils ont d'un commun accord mis un terme à leur collaboration. Une annonce faite hier après-midi par voie de communiqué, Léo Fichou.
Oui, arrivé en août 2022, Johan Sidaner aura dirigé la sélection pendant près de 4 ans avec des résultats marquants, notamment une médaille d'or aux Jeux du Pacifique en 2023 et puis une performance historique lors des barrages de la Coupe du Monde 2026. Johan Sidaner qui s'estime heureux d'avoir mené les Calédoniens dans cette aventure durant 4 ans.
Une page qui se tourne après 4 fantastiques années ici en Nouvelle-Calédonie et au sein de la Fédération Calédonienne de Football avec le sentiment du devoir accompli. Une riche et belle expérience avec quelques faits marquants et quelques résultats forcément probants. Des rencontres qui auront marqué mon passage ici. Le souhait, ce serait de voir que le travail et le chemin continuent dans le sens qu'on a mené depuis 4 années, encore une fois. Il y a un passage et des souvenirs qui resteront, mais forcément qu'on souhaite, et je souhaite au football calédonien et notamment à la sélection A de continuer comme on l'a entrepris, c'est-à-dire avec beaucoup de travail, mais des valeurs et une humilité qui nous ont permis d'accrocher des résultats qui semblaient presque inatteignables il y a ça 48 mois. Donc on termine sur une très belle note avec ce match en barrage, malgré tout malheureusement cette défaite contre la Jamaïque, mais effectivement ce cycle restera marqué par quelques belles expériences et notamment la médaille d'or aux Jeux du Pacifique.
Un départ qui marque la conclusion d'un parcours qui a permis au football calédonien de franchir des étapes significatives, tant sur le plan de la rigueur technique que de la dynamique sportive, peut-on lire sur le communiqué de la fédération. Pour l'instant, nous ne connaissons pas le nom de son successeur.
Dans la région, la fin hier des Océanias de natation au Fidji.
Et après 6 jours de compétition, la délégation calédonienne a remporté 9 médailles, 2 en or, 2 en argent et 5 en bronze. La dernière, c'était sur la dernière épreuve, le relais 4 x 1250 mètres en eau libre, la médaille d'or donc pour la délégation calédonienne. Objectif atteint pour Stéphane Tichon, conseiller technique de la Ligue calédonienne de natation.
Et on termine avec 2 nouvelles salles de sport de proximité à Dimbéa, les salles Bambou à Coutio et Mozart à Jacarandas qui ont été inaugurées hier soir.
Un événement qui marque une étape majeure du programme pilote du sport dans mon quartier qui est porté par le CTOS et son président Christophe Dabin.
Je crois que c'est important d'abord pour la jeunesse. Parce que l'objectif qu'on poursuit aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une activité de proximité par rapport à ce qu'on a connu, de ne pas avoir de transport. Ce que l'on veut, c'est que le sport soit vraiment démocratisé et que le sport soit au plus proche des pratiquants. Si ensuite on arrive à avoir des pépites qui s'en sortent, pourquoi pas? Mais l'objectif véritablement, c'est d'arriver à avoir le plus grand nombre de jeunes qui pratiquent une activité physique et sportive régulière.
Un modèle qui fonctionne et qu'il faut répliquer, selon Cynthia Jean, maire de Dimbéa.
C'est le partenariat entre l'État, qui évidemment finance, hein, il faut bien le dire, le Fonds social de l'habitat, donc un bailleur social qui met à disposition une salle. On est vraiment en pied d'immeuble, au cœur des quartiers. Et puis le CTOS qui apporte eh bien, évidemment le côté sportif. C'est vraiment essentiel, ça fait vivre le quartier, ça fait venir les enfants. Vous avez vu que ça fait venir aussi les mamans et les papas. Et ils n'ont même pas besoin de faire de publicité. C'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et c'est vraiment tout ce qu'on attend dans nos quartiers.
Une inauguration 2 ans jour pour jour après le début des émeutes de 2024. Un symbole, nous a dit Arnaud Lozier, secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat.
C'est le symbole que l'État investit dans la Nouvelle-Calédonie. Vous avez entendu comme moi les annonces du Premier ministre, la mission interministérielle qui porte un pacte de refondation. Mais au-delà de ces aides extraordinaires, il y a les crédits de droit commun, je dirais, qui continuent d'être déployés sur le territoire. Et l'État n'abandonne pas la Nouvelle-Calédonie. Au contraire, l'État croit en la Nouvelle-Calédonie et veut développer des lieux dans lesquels le vivre ensemble trouve à se développer. C'est très important de continuer à investir, de continuer à reconstruire, malgré les destructions qui peuvent être faites. Il ne faut pas céder au découragement.
2 nouvelles salles de sport donc à Dimbéa qui proposent différentes activités comme la boxe éducative, l'haltérophilie, la musculation ou encore les arts martiaux.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, temps très ensoleillé, hormis sur l'île des Pins où les nuages progressent et s'accompagneront d'averses isolées. Donc pour ce matin et en fin de matinée, ces nuages gagneront aussi la pointe sud des marées. L'alizée orientée sud-est pour ce matin, 10 à 15 nœuds, voire un peu plus sur la pointe nord-est, entre 15 et 20 nœuds. Cet après-midi, les nuages seront nombreux sur l'extrême sud et les Loyautés, avec de petites averses. Ailleurs, les éclaircies garderont largement l'avantage. Les ondées ne sont pas exclues vers Bélep. L'alizée toujours au sud-est, 15 nœuds cette fois, localement plus de 15 à 20 nœuds sur l'extrême nord-est et la côte ouest. Les températures pour terminer, comprises en général entre 25 et 28 degrés, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.